1er novembre 1954. Alors le 1er novembre 1954, en Algérie, une trentaine d'attentats ont lieu en divers endroits du territoire. Ce sera ce qu'on appelle la Toussaint Rouge. Cette insurrection apparaît comme une étape décisive dans le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne, d'abord par son ampleur, mais aussi parce qu'elle marque l'apparition sur la scène politique et militaire de son principal acteur, le FLN. Alors la guerre d'Algérie et plus largement les guerres d'indépendance nationale bouleversent le mouvement ouvrier en France et dans le monde. De nouveaux clivages apparaissent, en particulier autour de l'attitude à adopter vis-à-vis de ces mouvements. Alors, mais on voudrait voir un petit peu quelle vision tu as de la guerre d'Algérie et plus largement essayer d'interroger quels sont historiquement les rapports de la gauche et des questions coloniales.
Bon, alors là, c'est un peu directement notre histoire, je dis au niveau. Puisque, bon, on peut dire en tout cas pour ma génération, j'aime pas trop ces histoires de génération, c'est toujours un peu gluant, mais enfin bon, c'est un repère chronologique. On est en partie le produit quand même, direct ou indirect, de cette guerre d'Algérie. Alors, c'est autour de la guerre de libération algérienne se cristallisent deux types de problèmes. Le premier, c'est justement l'attitude du mouvement ouvrier des pays, des métropoles coloniales, face ou vis-à-vis des guerres de libération et des mouvements anticolonialistes. C'est une histoire, là aussi, assez tumultueuse, et dans laquelle on retrouve les grands clivages, finalement. C'est-à-dire qu'il y a eu un anticolonialisme, disons, réellement internationaliste, un véritable élan de ce point de vue-là des premières années de l'internationale communiste, avec les congrès de Bakou par rapport au peuple d'Orient, avec une attitude du jeune parti communiste français jusqu'à la guerre du Rif, antimilitariste, de sabotage finalement de l'opération coloniale et y compris de travail dans ce sens au sein de l'armée comme armée coloniale. Et puis cette tradition finalement, là aussi, a été sacrifiée petit à petit aux jeux diplomatiques et aux intérêts d'État sur la scène internationale. Au nom notamment des alliances politiques et en particulier des alliances politiques passées en 1945, au nom de la reconstruction nationale, des gouvernements d'unité nationale, etc. Ce qui s'est traduit par là une évolution nationale, en partie chauvine, du Parti communiste français. Je dis en partie parce que l'affaire est un peu plus contradictoire, mais sur le fond, il n'y a quand même pas photo, comme on dit. Que ce soit sur la question vietnamienne ou sur la question algérienne, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un soutien actif à la lutte de libération algérienne à partir de 1954. Alors, avec parfois des alibis théoriques, est-ce que l'Algérie est une nation ? C'est une nation en formation, mais donc est-ce qu'on peut parler de droits nationaux ? Avec tout un discours sur le droit au divorce ou l'obligation de divorce. On a le droit au divorce, mais on n'est pas obligé de divorcer. Donc, en tout cas, de ne pas faire du droit à l'indépendance une question de principe, hein, à ce moment-là. Il en est résulté quand même une ligne qui, au maximum, c'était un des points d'ailleurs sur lequel, à l'époque, de manière pas tout à fait consciente, mais on entrait en malaise, et pour certains d'ailleurs camarades, en opposition avec la ligne du parti. Il faut dire que beaucoup de militants qu'on va retrouver en 68 ou exclus du parti par la suite, à l'époque, Il faut rappeler, le Parti communiste en France faisait 25% de l'électorat, bon, rien de comparable à aujourd'hui. Donc c'était quand même, pour quelqu'un qui se radicalisait en politique, c'était un engagement, je ne dis pas inévitable, mais largement naturel. Or, le Parti communiste a... Moi, j'ai fait les dernières manifestations sur la guerre d'Algérie, mais c'était plus un mot d'ordre de paix. Donc, le mot d'ordre central, d'ailleurs, c'était paix en Algérie, mais c'était pas explicitement un mot d'ordre de soutien actif au FLN et aux Algériens. Ce soutien, il est beaucoup plus venu des milieux intellectuels avec l'appel des 100, qui n'était pas uniquement un appel pétitionnaire d'intellectuels, mais qui était quand même une sorte d'engagement moral à un soutien actif, c'est-à-dire à l'hébergement des militants algériens clandestins, à une certaine aide au FLN. Donc, finalement, le déclenchement de la guerre de libération algérienne, venant en 1954, exactement au moment où se soldait la défaite de l'impérialisme français en Indochine, c'était la mise à l'épreuve, finalement, des positions face à un mouvement général des luttes de libération nationale dans le Maghreb, en Indochine, mais également dans les colonies africaines, portugaises, françaises dans une moindre mesure, à ce moment-là. Bon, ça, c'est le premier problème donc, dont la conséquence, c'est la division par rapport au type d'engagement, c'est-à-dire de solidarité avec l'ensemble du mouvement anticolonialiste et anti-impérialiste, et d'une solidarité active, non pas d'une solidarité tolérante au nom de la paix. Bon. Alors, il faut nuancer quand même, parce que la ligne du Parti communiste avait des traductions parfois compliquées, hein, entre, par exemple, l'objection de conscience, le refus d'aller en Algérie, et certains militants communistes ont été emprisonnés. Alban Liechti, moi quand j'adhérais à la JC, on faisait la campagne pour la libération d'Alban Liechti, qui était emprisonné pour avoir refusé de porter les armes contre le FLN. Il y a eu très peu de cas de désertion, c'est-à-dire de passage au FLN. Il y en a quelques-uns connus, mais le problème portait principalement là-dessus. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'était ce qu'on pouvait attendre de la révolution algérienne elle-même. Est-ce que c'était une guerre de libération pour l'indépendance nationale, point, ou est-ce que sa dynamique allait beaucoup plus loin dans le sens d'une expérience socialiste, etc. Et le contexte là est important. Alors d'abord, le débat, je ne reprendrai pas ici, il y a eu un débat qui soutenir le FLN, qui était d'une certaine manière plus radical, ceux qui ont pris l'initiative de l'insurrection, ou le MNA qui historiquement, le MNA de Messaliage, qui était historiquement plus lié à une culture de mouvement ouvrier, et qui au début, en 1954, n'était pas une organisation légaliste. Il y avait des divergences sur comment, etc., quel type de lutte armée, mais pas sur le principe, et le MNA se préparait lui aussi à mener des luttes militaires. Bon. Après coup, je crois que c'est des questions qu'on peut discuter sereinement, parce que le MNA s'est transformé en partie en instrument du colonialisme français, mais ce n'était pas le cas au tout début de la guerre. À partir de 1958, ça l'est devenu, où ils ont, dans leur rivalité avec le FLN, ont pactisé parfois des degrés divers avec l'autorité coloniale. Bon, mais l'autre problème, c'était quel programme pour le FLN ? Est-ce que c'était un programme nationaliste, voire confessionnel ? Il n'était pas du tout acquis au départ que la référence officielle de la future Algérie indépendante serait, par exemple, une constitution faisant référence à l'islam comme religion officielle. Ça l'est devenu dans le cours, en partie d'ailleurs, du fait de la manière dont l'OS a... pratiquement par la série d'attentats à la veille de l'indépendance, fait que pratiquement il devenait difficilement imaginable de rester. Il y avait 1 million de... Enfin, ce qu'on a appelé de pieds noirs, mais bon, qui ne sont pas tous des colons. Hein. Il y avait un petit peuple, je suis bien placé pour le savoir, d'origine espagnole ou de petits juifs pauvres, etc. Bon, mais la ligne de l'OS a créé une situation irréversible et a favorisé finalement la définition de l'État avec une référence fortement religieuse. Et puis le programme social du FLN n'était pas joué d'avance. Il y a eu le congrès de la Soumam qui annonçait un programme relativement radical en matière de réforme agraire, etc., notamment autour de la figure d'Aban Ramdan, qui a été simplement liquidé là, dans la crise interne du FLN par ce qu'on appelait les Ben Tobal, enfin les 3B, je ne me rappelle plus les 3B en question, mais qui est un règlement de compte bureaucratique dans l'appareil du FLN, mais qui a un sens politique, qui liquide l'aile la plus sociale du FLN, qui avait une logique, on ne va pas employer les grands mots de révolution permanente, mais l'impact de la révolution algérienne, l'indépendance formellement, c'est 62, donc c'est exactement un écho pour nous avec la dynamique de la révolution cubaine, avec la radicalisation de la révolution cubaine. Donc on se dit, bon, il y a un scénario algérien qui prend la même voie à ce moment-là. Et alors, est-ce que c'était possible ? Il faut quand même rappeler que la guerre d'Algérie côté algérien, je ne sais pas si on prend la mesure, on parle aujourd'hui de quelque chose, peut-être que le chiffre est exagérément arrondi, mais quelque chose comme 1 million de morts sur 10 millions d'habitants, c'est énorme, c'est pas une peccadille. Hein. Donc une société qui a subi ça est déjà fortement traumatisée. Et en plus, les Français avaient gagné la guerre militaire. Ils l'ont perdu politiquement, mais justement, ils avaient infligé de telles pertes, etc. Donc l'appareil d'État algérien n'est pas surgi d'une expérience d'auto-organisation de résistance interne, mais notamment est venu de l'exil, bon, des gens qui étaient en prison comme Ben Bella, mais aussi de l'appareil militaire construit à la frontière autour de Boumédienne, ce qu'on a appelé l'armée des frontières, qui arrive, c'est un peu comme en moins grave, enfin, en plus modeste que ce qui se passe sur la Palestine, c'est-à-dire un appareil extérieur, financé de l'extérieur, et qui vient coiffer finalement un processus révolutionnaire qui a subi pas mal de dégâts sur le terrain. Donc on a un appareil d'État bureaucratique. Ça n'a pas empêché que dans un premier temps, Ben Bella ait pris des mesures, enfin le fameux discours sur l'autogestion, des mesures radicales qui ont existé, etc., mais en s'appuyant sur une tête d'épingle. Et finalement, avec l'ambiguïté du coup d'État de 65, moi j'ai vécu ça, on était en stage de l'UNEF à l'époque, on a passé la nuit collé au transistor, on ne comprenait pas bien ce qu'était Ben Bella, hein. On était à la JC, on dit, bon, ça a l'air d'aller dans le bon sens, comme Cuba et tout, mais enfin, c'est quand même pas des communistes pur sucre, donc on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, mais on a quand même intuitivement senti le renversement de Ben Bella comme un sale coup, quoi. Et en même temps, c'est pas non plus apparu clairement comme une inversion du processus, puisqu'une bonne partie des nationalisations des hydrocarbures, etc., ont été poursuivies ou carrément faites sous Boumédienne. Donc ça n'est pas apparu comme un coup d'arrêt brutal, mais comme une continuité. Alors tout ça est évidemment une des composantes majeures. Il faut savoir aujourd'hui, peut-être on l'oublie, mais que la guerre d'indépendance algérienne, par exemple pour les mouvements de lutte armée en Amérique latine dans les années 60 et 70, était une référence presque aussi forte que l'expérience cubaine ou l'expérience vietnamienne. Quand j'étais en 73 en Argentine, j'ai passé des nuits entières à discuter avec les camarades qui disaient « mais on veut faire une guerre de libération en Argentine comme en Algérie », avec l'idée qu'en Algérie, ils avaient gagné militairement. Ils disaient « non, c'est plus compliqué que ça ». Mais l'Algérie était une référence, faisait partie de cet ensemble d'expériences de la révolution coloniale. Il ne faut pas oublier quand même qu'un des textes fondateurs pour nous, qui était le discours d'Alger, du Che, était un discours d'Alger, de son passage en 65 en Algérie, où il prend position le plus explicitement possible à l'époque par rapport au jeu et aux rapports de force internationaux, à la politique de l'URSS vis-à-vis justement des guerres de libération nationale dans les pays coloniaux, etc.